franceinter.fr.
Il est 19h sur Inter. Le journal, c'est vous, Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Aucune éolienne offshore en France, mais la plus grande du monde, sera fabriquée dans l'Hexagone par l'américain General Electric. Elle fera 260 mètres de haut. On ne sait pas encore où elle sera implantée. La pluie après la neige, la douceur après le gel, le sud du pays redoute maintenant les inondations. Plus de naufragés sur les autoroutes de l'Hérault et du Gard, mais certains y ont fait le tour du cadran. Vous les entendrez et nous essaierons de comprendre pourquoi. Au sommaire également ce soir, les syndicats de la SNCF, pas rassurés et même remontés après leur rendez-vous au ministère des Transports. Marine Le Pen mise en examen pour avoir tweeté des photos de décapitation et autres exactions du groupe État islamique. Le discours musclé de Vladimir Poutine au Parlement à 15 jours de la présidentielle. Objectif Coupe du Monde pour Neymar, saison terminée au PSG. Et au téléphone sonne Fabienne.
Au téléphone sonne, on parle de consentement sexuel pour les mineurs. Une affaire, celle de Pontoise. Et cette jeune fille de 11 ans a mis le débat sur la table. Alors allons-y, y a-t-il un âge au-dessous duquel une relation sexuelle avec une personne majeure serait par nature non consentie? Si oui, lequel? Est-ce que l'éducation sexuelle doit tout revisiter? Est-ce que l'accès à la pornographie trop facile a brouillé toutes les lignes? À vous de nous le dire, 01 45 24 7000.
La neige a donc encore paralysé voitures et camions dans le sud, comme sur la Nationale 118 près de Paris il y a 3 semaines. Hier, ce sont l'Hérault et le Gard qui ont surtout été touchés par les chutes de neige pourtant annoncées. Plusieurs milliers de personnes ont passé la nuit dans leurs autos, coincées dans les blancs bouchons. Anthony Jameau est resté près de 24 heures sur la 9 avec ses deux enfants.
On était parti de Marseille à 11h hier. On s'est retrouvé bloqué à partir de 15h dans la zone de Montpellier sur la 9 jusqu'à 14h tout à l'heure, où on nous a enfin permis de sortir de l'autoroute dans l'autre sens grâce à un passage qui a été ouvert sur le terre-plein central. Donc enfin, on a pu à ce moment-là sortir après une attente interminable au cours de laquelle on n'a pas eu du tout d'infos de la part de Vinci Autoroute ou de la part des secours comme les pompiers. On a vu absolument personne, si ce n'est une patrouille de la protection civile qui est venue nous apporter une bouteille d'eau et quelques biscuits pour les enfants. On a attendu après toute la nuit. Les enfants ont dormi dans le siège auto, dormi dans la voiture avec le moteur allumé pour garder du chauffage. On n'a pas été prévenu que l'autoroute était fermée. On a juste eu l'information comme quoi il y avait des chutes de neige. Mais à aucun moment, on a eu un panneau nous indiquant que la 9 était fermée. D'autant que les sorties qui précédaient l'accès à la 9 était également bloquée et on ne pouvait pas les emprunter.
Bonsoir Philippe Randet.
Bonsoir.
C'est vous qui avez joint ce monsieur bloqué 24 heures dans sa voiture sur l'autoroute près de Montpellier, sans bouger donc, sans info, sans assistance ou presque. Comment en arrive-t-on à des situations pareilles?
Vous connaissez les paroles de la chanson d'Alizé, c'est pas ma faute à moi. Voilà en résumé ce soir ce que répond chacun des protagonistes. Alors commençons par l'exploitant de la 9, la société Vinci Autoroute. Hier, dès la fin de matinée, un arrêté préfectoral interdit la circulation à tous les véhicules sur la 9. Vinci communique alors ses consignes avec sa radio et ses panneaux lumineux. Hugo Medrano est le responsable d'exploitation et il accuse les poids lourds.
Le problème, c'est bien que certains chauffeurs poids lourds qui n'ont pas respecté les interdictions de circulation et d'autres n'ont pas respecté le code de la route qui consiste à ne pas doubler les ateliers de déneigement. C'est ce type de comportement qui entraîne des blocages puisque ces poids lourds vont se mettre en portefeuille sur les voies de circulation.
Pourquoi ne pas avoir bloqué les accès à l'autoroute?
Une interdiction de circulation, c'est une décision de police. Et alors, en la matière, nous n'avons pas autorité, nous, exploitants, pour obliger les usagers à ne pas prendre l'autoroute. Malgré tout, en certains endroits, on a vu des chauffeurs poids lourds forcer les passages et rentrer sur l'autoroute.
Les poids lourds pointés du doigt, donc parole à la défense. Jean-Marc Rivera est le secrétaire général de l'OTRE, qui représente la Fédération des petits transporteurs routiers, au micro de Mathilde Dehimy.
Quand l'arrêté a été pris, si les véhicules n'étaient pas encore sur l'autoroute, il y avait tout à fait la possibilité, si les conducteurs n'avaient pas été avisés de cet arrêté, de les arrêter aux barrières de péage. Pourquoi ça n'a pas été fait? Si les véhicules étaient en circulation sur l'axe autoroutier lorsque l'arrêté a été pris, il y avait également besoin de les informer. Mais il y avait aussi besoin de gérer le fait qu'ils soient déjà sur l'axe. Et ça, c'était bien de la responsabilité du concessionnaire. Comme il était de la responsabilité du concessionnaire, de mettre tout en œuvre pour que son réseau soit praticable.
Et Jean-Marc Rivera pointe aussi du doigt le manque de concertation et le manque de communication avec la préfecture de l'Hérault qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. La préfecture, comme Vinci Autoroute, qui évoque une hauteur de neige tout à fait exceptionnelle. Depuis 30 ans, l'Hérault n'avait jamais vécu un tel épisode et n'avait jamais été placé en alerte rouge pour de la neige.
Philippe Rendet, il n'y a plus ce soir de passagers coincés sur les autoroutes A9 et A75. Les derniers poids lourds sont en cours d'évacuation sur l'A9. La neige remonte maintenant vers le nord. Il neige en Bretagne et le verglas pourrait toucher le centre, les pays de la Loire et la Franche-Comté. Les vols sont suspendus à l'aéroport de Dublin, en Irlande, sans doute jusqu'à samedi. Et pendant ce temps, dans le sud-ouest et le massif central, le redout est spectaculaire. 16 à 18 degrés cet après-midi au pied des Pyrénées et à Biarritz, avec des risques d'inondation. On fera un point météo complet à la fin du journal, alors que les agents de Météo France en Auvergne-Rhône-Alpes sont en grève pour protester contre des suppressions d'effectifs.
À 50 mètres près, Sébastien, c'est la taille de la Tour Eiffel.
Le groupe General Electric veut construire en France la plus grande éolienne en mer du monde, 260 mètres de haut. Un investissement de 165 millions d'euros et une bonne nouvelle. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Bonne nouvelle pour Saint-Nazaire et pour Cherbourg.
Oui, Aliad X, un nom de créature marine pour cette éolienne super puissante, 12 mégawatts. C'est 6 fois plus qu'une éolienne terrestre. General Electric promet une machine capable de produire assez d'électricité pour 16 000 foyers européens. Pour cela, la géante doit fonctionner à pleine puissance les 2/3 de l'année. Un facteur de charge, comme on dit, de 63%. C'est un objectif énorme par rapport aux éoliennes en mer actuelles qui tournent environ la moitié du temps. Cette éolienne sera construite en grande partie en France. Les pales de 107 mètres de long fabriquées à Saint-Nazaire, les nacelles dans une autre usine qui doit ouvrir cette année à Cherbourg, 500 emplois à la clé. Au total, le groupe américain, vous le disiez, prévoit d'investir 165 millions d'euros sur ces 3 sites français. La livraison est prévue pour 2021. Elle est destinée, cette éolienne, au marché d'Europe du Nord, américain ou asiatique, à moins que la France ne lance un appel d'offres pour ce type de super éolienne en mer.
Mais pour l'instant, aucun des 6 parcs éoliens en mer prévus en France n'a encore vu le jour. Le premier appel d'offres remonte à 2011, mais ils sont retardés par le recours d'opposants. EDF fait savoir de son côté qu'il est prêt à lancer la construction du premier parc éolien français en mer cet été, au large de Saint-Nazaire, une fois que le dernier contentieux juridique aura été purgé. Merci Sandy Dauphin. Autre source d'énergie, le nucléaire, avec le calendrier du démantèlement de la centrale de Fessenheim, qui doit durer 20 ans, la plus ancienne centrale nucléaire de France. Son démantèlement doit commencer, elle doit commencer à être démontée à la fin de l'année, quand l'EPR de Flamanville, lui, entrera en service. Patrick Janton.
C'est l'autorité de sûreté nucléaire qui est maître de l'échéancier, mais à partir du moment où elle autorise l'introduction du combustible à Flamanville, la centrale de Fessenheim devra cesser son activité de production d'électricité, des conditions prévues par la loi de transition énergétique de 2015. Le démantèlement complet du site devrait prendre environ une 20aine d'années. Marc Simon-Jean, le directeur de la centrale nucléaire de Fessenheim.
Une fois que la centrale s'arrête, il y a une phase de 5 ans de pré-démantèlement pour préparer le démantèlement. Ensuite, il y a un décret de démantèlement qui va ouvrir une période de 15 ans de démantèlement où on va remettre à l'état naturel les terrains sur qui abritait la centrale. Et à la fin de cette phase, il y aura une phase d'assainissement et la conclusion sera donnée par la levée de la nature de l'installation nucléaire de base de l'établissement. À ce moment-là, on va dire que la nature aura repris ses droits et les terrains sont remis à l'état naturel.
Les effectifs de 750 salariés EDF vont chuter rapidement. Les départs devraient s'échelonner sur 3 ans pour ne laisser sur place qu'une 60aine de salariés. Patrick Janton, France Bleu Alsace, pour France Inter.
On voit mal comment la grève pourrait être évitée à la SNCF.
Les syndicats sortent du ministère des Transports sans illusion. Ils réclament une négociation, là où la ministre Elisabeth Borne ne parle que de concertation. La CGT, première centrale à la SNCF, se dit pas rassurée du tout et maintient la menace d'un conflit dur. L'UNSA, deuxième syndicat, n'envisage pas la fin du statut de cheminot prévu par la réforme du gouvernement et qui donne lieu à beaucoup de critiques de la part des usagers depuis l'annonce. Bruno Poncet de Sudrail au micro de Maxime Deps.
On est un peu remonté, c'était houleux. Je pense que Mme Borne s'attendait peut-être pas à avoir une fin de matinée aussi difficile, parce qu'à un moment donné, ça fait quand même 4 jours qu'on entend dire que le statut des cheminots génère autant de difficultés pour la SNCF, que le statut des cheminots en fait des privilégiés. On lui a dit, nous, aujourd'hui, les cheminots payent vraiment le prix de cette communication qui est faite depuis plusieurs jours et fait qu'aujourd'hui, les cheminots sont en danger sur leur lieu de travail parce que les usagers et d'autres personnes viennent leur dire des choses qui sont non seulement injurieuses, mais des fois très compliquées à entendre. Donc, à un moment donné, on lui a dit, voilà, depuis l'annonce de M. Philippe, on a ouvert les vannes. Quand on entend que les cheminots, ça serait quasiment les rois du pétrole en France, à un moment donné, les gens, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent toujours le même discours. Dès qu'ils croisent un cheminot, ils lui disent leur façon de penser.
Et les syndicats se sont donnés jusqu'au 15 mars avant de décider d'éventuellement débrayer. Ça va mieux dans l'automobile, en tout cas chez PSA. Bénéfice net à 1,9 milliard d'euros l'an dernier. Un record dont profitent les salariés. Chacun va toucher entre 2400 et 3400 euros de primes d'intéressement.
Marine Le Pen, mise en examen.
Pour diffusion d'images violentes. Bonsoir Jean-Philippe Degnaud.
Bonsoir Sébastien.
C'est la suite des photos d'exaction du groupe État islamique qu'elle avait relayé sur Twitter. C'était en décembre 2015.
Le 16 décembre 2015. Nous sommes tout juste un mois après les attentats de Paris et de Saint-Denis. Le matin, sur BFM, Jean-Jacques Bourdin reçoit Gilles Kepel et, dans une question à l'islamologue, le journaliste évoque des liens entre Daesh et le Front National dans l'idée de pousser la société française au repli identitaire. En colère, Marine Le Pen publie un tweet avec trois photos de propagande de Daesh montrant un soldat syrien écrasé par un char, un pilote jordanien brûlé vif et celle du journaliste américain James Foley décapité. Les réseaux sociaux s'enflamment, les parents de James Foley se disent profondément choqués. Marine Le Pen retire son tweet le lendemain. Le parquet de Nanterre ouvre une enquête pour diffusion d'un message violent de nature à porter atteinte à la dignité humaine, un délit passible de 3 ans de prison. Une autre instruction est déjà ouverte à Nanterre contre le député Gilbert Collard pour avoir diffusé un autre tweet de la même nature le même jour. Cet après-midi, la présidente du Front National a réagi à sa mise en examen auprès de l'agence France Presse pour avoir dénoncé l'horreur de Daesh. Dans d'autres pays, ça me vaudrait une médaille, a-t-elle déclaré.
Jean-Philippe Degnaud et Marine Le Pen présentera un nouveau nom pour son parti au congrès dans 10 jours à Lille, avant un vote des militants. Elle a dit récemment qu'elle trouvait que le mot front était un peu connoté militaire. Pierre-Ambroise Boss, mis en examen pour violence avec armes. Le champion du monde du 800 mètres est poursuivi pour l'altercation d'août dernier près d'Arcachon, où il a lui-même été blessé par un homme de 24 ans qui est également mis en examen. Jonathan Daval n'a pas pu être entendu par le juge d'instruction ce matin à Besançon à cause des mauvaises conditions météo, on en parlait. Ce devait être la première audition du mari d'Alexia Daval, incarcéré à Dijon. Il a reconnu avoir tué sa femme accidentellement.
Il est 19h12, sur Inter, un discours agressif du président russe.
Un discours annuel belliqueux même de Vladimir Poutine à un peu plus de 2 semaines de sa probable réélection à la tête du pays. Le maître du Kremlin vante le nouvel arsenal russe devant les deux chambres du Parlement et la modernisation de l'économie. À Moscou, pour Inter, Jean-Didier Revoin.
Augmentation des retraites, soutien aux familles avec des enfants, développement des infrastructures, hausse du budget de la santé, lutte contre la corruption ou simplification du système fiscal russe sont autant de mesures que Vladimir Poutine présente chaque année aux parlementaires et qu'il n'a pas manqué de souligner en cette année électorale. Ces éléments sont indissociables de la modernisation de l'économie russe qu'il prône depuis qu'il est au pouvoir mais qui peine à se matérialiser. À 2 semaines de la présidentielle, Vladimir Poutine a particulièrement insisté sur les capacités militaires retrouvées de la Russie pour présenter toute une série de nouveaux armements qu'il a qualifié d'unique au monde et capable de franchir le bouclier antimissile américain. Il a souligné la vocation défensive de ces nouveaux équipements qui permettront à la Russie d'être mieux écoutée dans les instances internationales tout en précisant les conditions dans lesquelles il pourrait s'en servir.
Toute utilisation d'une arme nucléaire contre la Russie ou l'un de ses alliés, quelle que soit sa puissance, sera considérée comme une attaque nucléaire contre notre pays. La réponse sera immédiate avec toutes les conséquences qui s'ensuivent.
Un appel du pied lancé aux membres des structures de force pour leur dire qu'il les soutient et les inciter à aller voter. L'occasion enfin de faire de la mutation des armements russes qu'il a su mener à bien un exemple dont le reste de l'économie puisse s'inspirer. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
Un convoi d'aide humanitaire est entré ce matin dans l'enclave d'Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie, le premier depuis le début de l'offensive turque dans cette région tenue par les Kurdes. 29 camions qui transportent 430 tonnes de nourriture et de médicaments pour 50 000 civils coincés. Précision de Yolanda Jacquemet, porte-parole du comité international de la Croix-Rouge, au téléphone avec Nathalie Hernandez.
en priorité des médicaments, de la nourriture, du matériel pour purifier l'eau, des couvertures, des vêtements d'hiver et des matelas. Il fait froid dans la région et les gens manquent littéralement de tout. L'année dernière, nous avons pu aller 5 fois à Afrin, ce qui est insuffisant. Au vu des besoins, c'est toujours un défi en Syrie de passer soit des lignes de front, soit d'atteindre des régions difficiles d'accès. Donc Afrin fait partie de la catégorie difficile d'accès, si vous voulez. Mais en termes pratiques, c'est toujours un défi parce que nous devons avoir l'accord de toutes les parties au conflit. Il y a un déplacement de population constant en Syrie. Il est estimé par les Nations Unies que l'année dernière, il y a eu 1 300 000 personnes nouvellement déplacées sur l'ensemble du territoire. Donc déplacement, ça veut dire que les gens perdent leur foyer, ils perdent toutes leurs possessions, ils se retrouvent parfois à la belle étoile et ils ont littéralement besoin de tout et donc dépendent de l'aide humanitaire.
Les suites du meurtre d'un journaliste en Slovaquie, Jan Kuciak, 27 ans, tué par balle chez lui en même temps que sa compagne alors qu'il enquêtait sur la fraude fiscale dans les milieux d'affaires. Alexis Rosenzweig, les premières interpellations ont eu lieu aujourd'hui.
Toutes les personnes interpellées sont d'origine italienne et étaient mises en cause dans l'article inachevé du journaliste qui a enquêté sur les liens entre la mafia calabraise 'Ndrangheta et des personnalités proches du gouvernement slovaque. Jan Kuciak avait pendant de longs mois analysé les mécanismes de fraude aux fonds européens et de blanchiment d'argent sale mis en place dans l'est de la Slovaquie. Suite à ces révélations, 2 conseillers du Premier ministre ont démissionné, ainsi que le ministre de la Culture. Une marche en hommage au couple assassiné se déroulera demain à Bratislava, une marche qui pourrait se transformer en manifestation contre le gouvernement de Robert Fico, très fragilisé par ce double homicide. Le président slovaque devrait monter au créneau ce week-end. Andrej Kiska avait déjà récemment mis en garde contre les risques de transformation de ce petit pays d'Europe centrale, membre de l'Union européenne, en État mafieux. Prague, Alexis Rosenzweig, France Inter.
Jamais un membre aussi haut placé de la famille royale britannique n'est venu en Israël en visite officielle depuis la création de l'État hébreu en 1948. Le prince William y sera cet été, visite historique, d'ores et déjà saluée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le 2e dans l'ordre de succession des héritiers du trône britannique ira aussi dans les territoires palestiniens et en Jordanie.
Allez, imaginez Sébastien, le regard de la Joconde qui vous suivrait partout en France.
Eh bien la ministre de la Culture y est favorable. Ça serait super. Françoise Nyssen veut mettre en place un grand plan d'itinérance pour faire quitter les murs du Louvre au célèbre tableau de Léonard de Vinci. Le maire de Lens, où se trouve une antenne du musée, est d'ores et déjà candidat. Lui, sa saison est terminée au PSG. Neymar sera opéré samedi au Brésil de sa fissure au pied et il restera convalescent ensuite pendant 3 mois selon son médecin, celui de la sélection brésilienne. Bonsoir Sébastien Hazard.
Bonsoir.
L'objectif de l'attaquant parisien est clairement la Coupe du Monde en Russie dans un peu plus de 100 jours et le PSG doit faire avec ou plutôt sans.
Chaque jour, une mauvaise nouvelle de plus, Sébastien. En 48 heures, on est passé de « il va peut-être jouer face au Real » à « c'est fini ». Le Paris Saint-Germain, c'est vrai, s'est toujours refusé à évoquer une durée d'indisponibilité. À chaque fois, ce genre d'information est venu d'interlocuteurs brésiliens. Le père de Neymar, mardi soir, est donc le médecin de la sélection brésilienne aujourd'hui. Rodrigo Lasmar, c'est son nom, donnant même un nouveau diagnostic.
Il est d'abord important d'expliquer que ça n'a pas été une simple fissure sur un doigt du pied comme on l'a présenté au début. C'est une fracture. Le terme fissure est incorrect. Fracture d'un os important au milieu du pied. La décision médicale d'opérer a été unanime de notre côté comme de celui du PSG. Le temps de récupération de cette fracture se situe entre 2 mois et demi à 3 mois.
3 mois d'absence, c'est retour pour la Coupe du Monde, pas avant. Le sentiment surtout que le Brésil fixe le tempo, que le Paris Saint-Germain subit. Le docteur de la Seleção est venu hier au camp des loges et il a embarqué le joueur. Un claquement de doigts. Ouais. Hier soir, Nasser El Khelaifi, le président du PSG, a assuré pourtant qu'il n'y avait aucune divergence d'opinion entre les différents protagonistes. Il a tenu à remercier Neymar Senior, le papa, de rester à Paris pour le match de Ligue des Champions, montrer qu'il était attaché à l'équipe. Le papa sera là, oui, mais ce n'est pas lui qui joue.
Un claquement de doigts pour un doigt de pied, merci Sébastien Hazard. Pendant que Neymar se fera opérer au Brésil samedi, son club, le PSG, jouera en championnat à 3, avant donc le rendez-vous contre le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est mardi, Fabienne.
Il joue à 3, mais je croyais qu'on jouait à 11 au football.
Oh, c'est pas bon,
pardon.
C'est pas drôle.
Sébastien Pauvre pour le journal, merci. Et merci de nous écouter dans un instant. C'est le téléphone sonne. On parle de consentement sexuel pour les mineurs ce soir. Vos questions 01 45 24 7000. À tout de suite, la météo maintenant.
La météo avec Bleu Forêt, fabricant français de chaussettes pour hommes en matière naturelle. Coton, fil d'Écosse, soie, laine, graphique ou classique, rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Voilà, les chaussettes. Donc ça s'arrange pour le Nord-Ouest, Élodie Calac.
Oui, les dernières pluies verglaçantes s'attardent juste sur la Seine-Maritime. On reste prudent tout de même sur les routes, sur la plupart des régions. Ça souffle encore ce soir sur la Haute-Garonne, le Tarn, 100 à 130 km à l'heure. Les fortes vagues vont s'atténuer sur le littoral du Languedoc-Roussillon. Mais on va surveiller la côte atlantique cette nuit puisque des risques de submersion sont à craindre au moment de la pleine mer.
Et on a une vigilance orange du nord de la Seine jusque dans le Grand Est.
Oui, pour demain, on attend un peu de pluie verglaçante. Elles persisteront près des frontières du Nord dans l'après-midi. De la pluie le matin du nord de la Bretagne et de la Basse-Normandie jusqu'au quart sud-est. Ça s'arrangera l'après-midi. On retrouvera de belles éclaircies. Des éclaircies qui seront déjà présentes le matin de la façade ouest jusqu'à l'Occitanie. Il fera un petit peu moins froid. Demain encore des gelées, c'est vrai, du nord de la Seine jusqu'au nord-est, mais 1 à 8 degrés ailleurs. Et puis l'après-midi, on aura souvent 7 à 14 degrés. Toujours un peu moins vers les frontières du Nord, 2 à 5 degrés.